Rebelle Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de notre magazine Micro Rebelle Hebdo, le magazine hebdomadaire de notre web radio Micro Rebelle. Cette émission est enregistrée en direct, comme chaque vendredi soir, depuis notre studio de Lens, de 18h à 19h. Vous pouvez l'écouter en direct donc sur micro-rebelle.fr ou encore via l'appli de la Franf. Rappel enfin, cette émission est rediffusée par nos amis de Radio PFM, 99.9 en ondes hertziennes ou en DAB+. Rediffusion le vendredi soir, donc le même soir, à 20h, le samedi matin à 7h30 et le dimanche à 14h. Merci à PFM pour cette politique de rediffusion. Micro Rebelle Hebdo, comme chaque semaine, va vous proposer son agenda social et culturel, les actualités et la revue de presse, ainsi que des reportages, des chroniques, le tout entrecoupé de musique libre. Sans attendre, je vous propose tout de suite notre agenda social et culturel. Il a été préparé par Aurélie.
Cette semaine dans l'agenda, on se retrouve le samedi 20 juin pour un rassemblement. Pas de fachos dans nos quartiers et pas de quartier pour les fachos. Ce samedi 20 juin à 9h45, Marine Le Pen est censée rendre visite, passer au petit marché de Marlémine. Donc le RN se sentant sans doute en position de force pour le deuxième tour des municipales dans cette localité, entend faire le forcing. Nous appelons l'ensemble des citoyens, des démocrates, des militants attachés aux valeurs du progrès et d'écologie à rappeler à cette dame que Marlémine est une terre au passé de lutte syndicale et qu'elle n'y a pas sa place. On vous y attend donc nombreux. Toujours le samedi 20 juin, on se retrouve pour un autre rassemblement, cette fois-ci par le collectif Fédère doit tomber. Rassemblement qui aura lieu devant la statue honorant le criminel Fédère, place Richebet, ce samedi 20 juin à partir de 13h pour réclamer son retrait pur et simple de l'espace public. Cessons la célébration du colonialisme. Le dimanche 21 juin, entre sur la friche Saint-Sauveur et son belvédère, saisis-toi des débats et fesse-toi. Venez prendre la parole sur les injustices et inégalités exacerbées en cette période de Covid. Et donne tes idées et solutions pour l'après. Rendez-vous à midi sur le belvédère pour un pique-nique friche, pique-nique plantation, puis à 15h rue de Cambrai pour une balade musicale par Oyo. Du belvédère à la friche avec des collages par la laboration d'humanité. Enfin, à partir de 15h30, sur la friche, au programme Forum social, spectacle, concert, déambulation artistique avec l'église de très sainte consommation, la femme cartouche, au boulot, la pluie qui tombe, Monsieur Jock et plus encore, restauration sur place en soirée. Le mardi 23 juin, cette fois-ci, une préparation du défilé du 14 juillet pour la santé. Nous pouvons laisser retomber notre détermination à sauver notre service de santé. Nous vous invitons donc à agir ensemble et à organiser ce 14 juillet à Lille un défilé pour la santé. Rendez-vous à la Bourse du Travail de Lille, de l'IFIV, mardi de 17h à 18h. Toujours le mardi 23 juin, cela signe aussi la réouverture du cinéma Les Étoiles à Bruay-la-Bussière, réouverture avec le film Mine de Rien à 19h30. Donc dans la programmation de la semaine, vous pourrez retrouver notamment le film Queen et Slim, qui nous avait pensé au mouvement Black Lives Matter aux USA. Voici le synopsis. Dans l'Ohio, deux jeunes afro-américains, Queen et Slim, font connaissance sur Tinder. Pour leur premier rendez-vous, ils se retrouvent dans un dîner. Alors que Slim raccompagne Queen à son domicile en voiture, ils sont arrêtés par un policier pour un contrôle. La tension monte lorsque le policier effectue une palpation de Slim et une fouille approfondie de son véhicule. La situation dégénère quand Queen, avocate de formation, demande des explications au policier et lui annonce qu'elle va sortir son téléphone pour filmer la scène. En réaction, le policier tire sur Queen qui est blessé à la jambe. Furieux, Slim se bat avec le policier puis saisit son arme, lui tire dessus et l'abat. Les deux jeunes prennent alors la fuite et décident de partir en cavale. Les séances sont en version originale sous-titrée mercredi 24 juin à 20h, vendredi 26 juin à 17h et se poursuivent ensuite jusqu'au mercredi 7 juillet. Nous vous communiquons bien évidemment les horaires de ces séances suivantes dès la semaine prochaine. Le jeudi 25 juin aura lieu une réunion à l'initiative du collectif ACAD contre les compteurs communicants et la 5G. Elle aura lieu à 18h à la salle Capé, rue de la Maladrie à Angres. Venez nombreux et nombreuses pour cette réunion d'après-confinement et d'avant-vacances d'été. Pourquoi cette réunion est importante ? Tout d'abord, elle permettra de faire le point rapide sur ce qui se passe, puis ce sera l'occasion de réfléchir sur les actions à venir sur ces sujets. Ce sera aussi l'occasion d'apporter une explication sur l'appareil de mesure des ondes électromagnétiques par un spécialiste. Toujours le jeudi 25 juin, cette fois-ci c'est le report de la réunion des OCS62, la réunion des objectrices et objecteurs de croissance U62, prévue initialement ce jeudi 25 juin et reportée au mardi 30 juin, toujours de 19h à 21h au LAG 23 avenue Jean Jaurès. On vous y attend nombreux. Et enfin, le samedi 27 juin aura lieu une marche à partir de Porte de Douai jusqu'au centre de rétention de détention de l'Esquin. C'est un appel du comité des sans-papiers. Portugal, Italie, Espagne, Allemagne ont annoncé des régularisations. La France se tait en ignorant les appels des sans-papiers, des élus, des députés à la régularisation. Confinés comme tout le monde, les sans-papiers ont poursuivi leur lutte pour la régularisation en apportant leur solidarité, repas aux soignants, fabrication des masques, courses et appels, causeries aux personnes âgées et isolées, dons de sang. La France continue arrestations et détentions dans les centres de rétention. Rendez-vous samedi 27 juin à 14h, Porte de Douai à Lille, pour le départ de la marche. Et c'est la fin de cet agenda.
Eh bien, merci Aurélie. On va poursuivre avec notre rubrique actualité au travers de la presse. Alors cette semaine, l'actualité est marquée par l'allocution d'Emmanuel Macron, par les belles manifestations des soignantes et soignants, par les perspectives sociales peu réjouissantes et par la question du climat. Alors on va commencer par l'allocution d'Emmanuel Macron. La Voix du Nord titre ainsi « Emmanuel Macron entrouvre la nouvelle étape » avec des guillemets de son mandat. Écologie, souveraineté et solidarité, c'est le triptyque qui portera le plan de relance que le président de la République entend dévoiler à l'issue de larges concertations en juillet. Une nouvelle étape, toujours avec des guillemets donc, du quinquennat, mais pas une réinvention, précise la Voix du Nord. Les grandes réformes ne seront pas remises en cause. Et ensuite, la Voix du Nord décline l'ensemble des thématiques abordées par Emmanuel Macron. Bars et restaurants, rassemblements, retour à l'école, retour des visites aux aînés, municipales, frontières, impôts, emploi et indépendance, décentralisation, relance économique, racisme, etc. Dans l'ensemble, on peut estimer que ce fut un discours plein d'autosatisfaction qui s'inscrit dans des annonces de normalisation de la situation post-Covid. Il n'est pas sûr que cela suffise à convaincre. En l'espèce, la Voix du Nord donne la parole à des syndicalistes, enseignants notamment, extraits avec Catherine Piécuche du syndicat FSU. On se trouve face à des errements de plus, une absence de cap. Rien n'a été pensé, rien n'a été dit sur le protocole sanitaire. À cette époque de l'année, les jeux sont faits, les conseils de classe ont eu lieu. Je ne pense pas que les élèves reviendront davantage qu'ils ne le font maintenant. Le président ne répond pas à la question que nous avons posée d'un budget pour réparer les dégâts provoqués par le confinement. Pour l'heure, les suppressions de postes annoncées demeurent. Si Emmanuel Macron annonce une certaine forme de normalisation, il semble au contraire acquis que nous entrons dans une période pas vraiment normale. Air France vient d'annoncer la suppression de 8300 postes, une annonce qui fait suite à d'autres annonces similaires à Renault, Airbus, Vivarte, Hutchinson et à l'étranger à Lufthansa et British Airways. En région, la Voix du Nord peut ainsi titrer cette semaine « Plus d'un million de salariés victimes de la crise sanitaire dans les Hauts-de-France », avec en sous-titre « Une étude de l'INSEE Hauts-de-France » publiée hier révèle que plus d'un salarié sur deux travaillent dans un secteur fortement ou très fortement impacté depuis le confinement. Industrie automobile et ferroviaire, commerce non alimentaire et construction sont les plus durement touchés. Au-delà des salariés, la Voix du Nord a également une petite pensée pour les patrons, avec ce titre et ses explications « Les patrons du Nord, très inquiets pour les prochains mois ». Explication du journal, un sondage réalisé par le magazine Eco 121 entre le 4 et le 10 mai traduit la part d'inquiétude d'une majorité de chefs d'entreprise régionales quant à leur niveau d'activité pour les mois à venir. Eco 121 a interrogé 329 chefs d'entreprise de la région et les chiffres traduisent un pessimisme généralement partagé dans le monde économique. 52% des dirigeants se déclarent dans l'expectative et seulement 36% se disent optimistes. La Voix du Nord ajoute sous une photo, plus de la moitié des chefs d'entreprise sondés se disent dans l'expectative, près d'un quart envisagent de licencier. Ceci étant, parmi les patrons, ils sont quelques-uns à se sentir pousser des ailes. La Voix du Nord évoque ainsi, je cite, « l'appel des 70 pour une après-crise, après-crise avec des guillemets, une après-crise durable et connectée ». Des patrons, précise le journal, et non des moindres, signent une tribune pour engager les mondes politiques, économiques et universitaires en faveur des projets d'une troisième révolution industrielle inventée il y a 6 ans dans le Nord-Pas-de-Calais. Un acte de foi pour imposer un autre modèle de développement, de sortie de crise. Alors parmi les signataires, on trouve de grands patrons, Roquette, Le Safre, Bonduel, des grandes PME, des plus petites entreprises et y compris des acteurs de l'ESS, l'économie sociale et solidaire. L'idée générale de la tribune qu'ils signent est assez simple. Il s'agit de relancer la troisième révolution industrielle, le fameux Rêve 3. La Voix du Nord donne ainsi la parole à Philippe Vasseur, président de Rêve 3. Nous avons de grandes ambitions sur l'hydrogène dans l'industrie, la méthanisation, le stockage du carbone, les métaux stratégiques, les énergies renouvelables, les bâtiments intelligents, la gestion des sédiments. Un immense chantier de recyclage va concerner le canal Seine-Nord. Nous allons mettre en place des solutions financières assez novatrices, notamment en alliant fonds publics et privés sur des gros montants. Nous en discuterons le 11 septembre avec Xavier Bertrand au conseil régional qu'il préside, pour faire de nous la région test en Europe de cette économie en crise, relancée par le développement industriel, durable et connecté. Fin de citation. Et la tribune signée par ces différents patrons se conclut ainsi. Ne considérons pas que la crise risque de freiner les efforts engagés, mais soyons au contraire convaincus que c'est en accélérant les mutations économiques portées par toute une région que Rêve 3 contribuera à sortir de cette crise et à se prémunir contre les suivantes. Fin de citation. Voilà, tout est dit. Solutions financières novatrices, mutations économiques, bâtiments intelligents, etc. Par ici, la sortie de crise avec le numérique, la digitalisation et le développement industriel durable et connecté. Il y a incontestablement beaucoup à dire concernant ces solutions soi-disant innovantes. N'oublions pas que le capitalisme a toujours eu cette facilité, cette faculté de se régénérer pour se sortir des crises qu'il a lui-même engendrées. Aujourd'hui, la voie de sortie, c'est le capitalisme vert qui s'appelle Rêve 3 en région. En attendant, cette crise économique et sociale, leur crise économique et sociale, ce sont les salariés qui la payent. Payer la crise économique et sociale. Heureusement, ils et elles sont nombreuses et nombreux à estimer que ce n'est pas une fatalité. Et c'est en fait au patronat, aux actionnaires, aux capitalistes de payer puisque c'est leur crise, leur système. C'est tout le sens de la mobilisation du 16 juin, mardi dernier, mobilisation des soignantes et soignants. Parcourons rapidement la presse locale. Premier titre dans la Voix du Nord, l'hôpital réclame son dû. Applaudi chaque soir durant la crise sanitaire, les personnels hospitaliers manifestent aujourd'hui pour obtenir les moyens promis et nécessaires à un nouveau fonctionnement. Et un autre titre, à peine sorti de la crise, l'hôpital, malade, redescend dans la rue. Épuisé, désabusé mais déterminé, La crise sanitaire à peine terminée et le Ségur de la santé toujours en cours, les personnels hospitaliers reprennent la contestation à l'appel de 10 syndicats et collectifs hospitaliers. Une journée nationale d'action qui se traduira aujourd'hui par une manifestation régionale à Lille et des actions devant les hôpitaux avec la population appelée à se joindre à la mobilisation. Ça, ce sont les titres juste avant les mobilisations. Et maintenant les titres le lendemain. L'hôpital, plus uni que jamais pour tirer les leçons de la crise. Et l'article précise 10 000 selon les syndicats, 2 600 selon la police. De mémoire de syndicaliste, il n'y avait jamais eu autant de soignants dans une manifestation. Voilà pour le cortège régional à Lille, parsemé hier de pancartes de dizaines de centres hospitaliers, établissements publics de santé mentale, services d'urgence, SMUR de la région. Mais avant cela, dans la matinée de cette première journée nationale de mobilisation depuis la crise sanitaire, des manifestations avaient déjà réuni près de 250 personnes devant l'hôpital Duchesne de Boulogne-sur-Mer, une vingtaine sur le parvis d'un EHPAD de la ville et autant devant la clinique privée de la Côte d'Opale. Même chose devant le centre hospitalier d'Arras ou encore à Dunkerque, Maubeuge, Valenciennes, Douai et Cambrai, où quelques 300 personnes ont à chaque fois crié la détresse du secteur dans les rues. À Calais, le cortège a même atteint 500 personnes. Des soignants, également mobilisés par dizaines devant leurs établissements à Elfaux, Roubaix, Tourcoing, Hasbrouck, Vendin-le-Vieil. Bref, partout dans la région, poursuit la Voix du Nord, le monde de la santé, du brancardier au médecin, en passant par les personnels techniques administratifs, a crié sa colère, démultipliée par 3 mois de crise sanitaire. Une colère qui a unifié toutes les professions du secteur et fait sauter de vieux clivages. Public, privé, unité, crachait ainsi les micros hier. Autre article, dans la Voix du Nord toujours, et dans la rubrique « Le débat du jour ». Les soignants ne désarmeront pas. Fort du soutien persistant de la population, médecins, infirmiers, aides-soignants ont rappelé hier le pouvoir à ces engagements. Et la chronique poursuit « La mobilisation des médecins, des infirmiers, des aides-soignants, de tous ceux qu'on appelle avec affection les soignants, depuis ces 3 mois de douleur, a été un succès. » Fin de citation. Ce fut donc une très belle réussite. On y reviendra tout à l'heure dans notre reportage. On peut évidemment regretter les interpellations brutales de la police et le tapage médiatique autour de l'interpellation de Farida pour outrage et jet de projectiles sur les forces de l'ordre. La police a présenté Farida comme une gilet jaune radicalisée. La réalité est bien plus simple. Farida est une infirmière qui a, selon les propos de sa fille, qui bosse entre 12 et 14 heures par jour pendant 3 mois et qui a eu le Covid. Elle manifeste pour qu'on revalorise son salaire et qu'on reconnaisse son travail. Alors effectivement, sa colère a débordé, ce qui lui a valu son interpellation brutale, les policiers la tirant par les cheveux et la plaçant en garde à vue. La colère de Farida, ce mardi 16 juin, était partagée par de nombreux et nombreuses manifestants et manifestantes. Elle mérite notre soutien. Alors une dernière actualité concernant le climat. Aujourd'hui se tient la Convention citoyenne sur le climat à laquelle Emmanuel Macron devrait apporter une première réponse avec des guillemets le 29 juin. On y reviendra dans de prochaines émissions, notamment pour apprécier en quoi ce type d'initiative peut permettre ou pas de lutter contre le réchauffement climatique. On a quand même relevé cet article cette semaine dans La Voix du Nord avec ce titre « On reste sur des schémas passéistes » déplore le réseau Action Climat. Au moment où les milliards s'abattent pour sauver l'économie et les citoyens, les associations environnementales exigent un verdissement des politiques nationales et européennes. L'article poursuit. Au moment où il est question de Green Deal européen, de plans de relance, de projets de lots de finances rectificatives, de milliards investis pour sauver des secteurs et des citoyens en danger, les écologistes de toute obédience, réunis dans le réseau Action Climat, montent au créneau. On aura bien sûr l'occasion d'y revenir dans nos émissions sur Micro Rebelle. Je poursuis cette chronique actualité et revue de presse en donnant la parole à Aurélie pour un retour sur un article de Politis consacré aux violences policières.
Politis, cette semaine, nous pose la fameuse question. Quelles leçons devons-nous tirer de ces récentes manifestations concernant la police ? Politis nous livre sa propre vision des choses. Une société plus juste, moins violente. Il est difficile de mettre en place la société idéale. De jour en jour, chacun se rend compte de l'évidence absolue. Il est difficile pour un être humain de dissocier son opinion de la fonction qu'il exerce, qu'elle soit dans les fonctions publiques ou dans le privé. C'est la réalité dans laquelle nous vivons chaque jour. À mon sens, cela ne concerne pas juste les policiers, car des personnes racistes, homophobes et j'en passe, il y en a partout. Et c'est là que le bât blesse. Vous connaissez peut-être une personne raciste, homophobe, ou qui dit simplement ne pas être trop en accord avec l'amour entre personnes de même sexe. Peut-être même que vous n'avez pas remarqué que ces propos discriminatoires sont devenus des sortes de points de vue. Or, cela ne devrait pas l'être. Je respecte bien entendu l'avis de chacun, mais depuis quand dire de quelqu'un qu'il est un sale bougnoul qui doit crever, ou une sale lesbienne, est acceptable ? Ce n'est pas un point de vue, ce sont des propos dégradants. Au-delà des policiers, c'est toute une société que nous devons remettre en cause. Parce que oui, il existe des policiers racistes, homophobes et j'en passe, comme il existe aussi de très bons policiers. Toutefois, comme le souligne Politis, le système au sein de la police doit réellement changer et être adapté au mieux. Lancer des gaz lacrymaux, plaquer des personnes au sol en les étranglant, ne sont pas des pratiques acceptables. Depuis quand un représentant de la loi fait usage de la violence pour régler un conflit, notamment lors de simples interpellations ? Est-ce que la violence est vraiment nécessaire et surtout justifiée ? Je ne pense pas. La boxe serait plus appropriée à ceux qui se laissent aller et qui lâchent leurs nerfs sur des individus, notamment en manifestation. Vous avez sans doute entendu parler de cette infirmière, 52 ans, plus de 30 ans de service au sein du service hospitalier. Elle s'est laissée emporter par la manifestation et a été interpellée de manière un peu musclée. Doit-on répondre à la violence par la violence ? Si on choisit cette vocation, n'est-ce pas justement pour prôner la paix, la justice ? Mais quelle justice pour ces personnes qui perdent un œil, un doigt, des dents, lors de manifestations qui tournent mal, considérées comme des simples dommages collatéraux ? Que penser d'une justice qui tourne à la loi du plus fort ? La justice devrait au contraire être dénuée de violence. Toutefois, on ne peut ignorer le caractère généralisant des propos tenus à propos des policiers. Retenez que ce n'est pas parce qu'une pomme est pourrie que toutes celles autour le sont aussi.
Web Radio indépendante de Bassamini, micro-rebelle, média local alternatif, solidaire quoi.
The lie that resides
musique libre sur Micro Rebelle, dans ce Micro Rebelle hebdo, chaque vendredi de 18h à 19h sur micro-rebelle.fr, sur l'appli de la France, en rediffusion sur PFM 99.9 et en DAB+. Musique libre, c'était Minda Lacey qui nous interprétait Optimisme. On va démarrer une nouvelle rubrique qui s'appelle pour l'instant, c'est un titre provisoire, Démocratie économique. Il s'agit d'entretien avec Benoît Boritz. Benoît Boritz, c'est l'animateur du site economie.org et ce sont des entretiens réalisés par Luc.
Première chronique à micro-rebelle sur la démocratie économique en compagnie de Benoît Boritz, essayiste, animateur du site economie.org. Nous parlons aujourd'hui du plan de sortie de crise, plan qu'ont proposé le 26 mai à l'issue du confinement 20 organisations syndicales et associatives. Ce plan esquisse un tournant social et écologique au travers d'une série de 34 mesures. Benoît, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'il te semble le plus significatif au sujet de ce plan?
Je dirais que c'est quelque chose d'assez nouveau de voir ensemble travailler des organisations syndicales, donc des organisations de salariés, et puis des organisations écologistes. Jusqu'à présent, on voyait les organisations syndicales défendre la question du pouvoir d'achat, du niveau de vie, ce qui est normal, ce qui était dans leur fonction. Et de l'autre côté, on avait des organisations écologistes qui tiraient le signal sur le terrain de « attention, il ne faut pas que ça bousille la planète, il faut que notre développement soit durable dans le temps ». Jusqu'à présent, on a souvent eu une écologie, je dirais, un petit peu punitive. L'exemple typique, c'est la hausse du prix du gasoil, qui avait effectivement une volonté quand même écologique sur le fond, mais qui a été très mal comprise, parce qu'elle s'est attaquée aux personnes les plus vulnérables, qui souvent n'avaient pas d'autre choix que d'utiliser un véhicule diesel, on les avait poussés à ça, pour aller au boulot. Bon, ben là, on a une démarche qui tourne complètement le dos à ça. On a une démarche qui à la fois combine des augmentations de salaire d'un côté et d'autre part des mesures écologiques en disant on ne va pas non plus faire n'importe quoi. Voilà pourquoi je trouve que c'est quelque chose qui est neuf et qu'il faut vraiment souligner.
On va s'intéresser plus particulièrement à deux mesures. Pour le reste, on invite tout à chacun à aller lire ce plan de sortie de crise. Ces deux mesures, ce sont les mesures 9 et 11 qui proposent respectivement la hausse des salaires et la réduction et le partage du temps de travail. Comment cela se passerait-il? Au travers de quelle répartition des richesses, quelle répartition du temps de travail?
Oui, ben on peut rapidement, c'est très intéressant ces deux mesures, puisque la mesure 9 prévoit une hausse du salaire net uniforme pour tout le monde de 200 euros, avec un plancher de 1700 euros net de salaire minimum d'une part, et que de l'autre, la mesure 11 prévoit une réduction du temps de travail, donc des 35 heures à 32 heures. Bon. L'objectif affiché de la mesure 11, c'est pas tellement la décroissance, je tiens à le préciser, d'un point de vue écologique, on pourrait se le demander, parce que qui dit décroître en termes de production, dire qu'on va travailler moins. Non, la motivation de la mesure 11, c'est de créer des emplois de façon à venir à bout du chômage. Bon. Ces deux mesures, je dirais, elles peuvent être mises en place du jour au lendemain, ça c'est très très clair, mais ce qu'il faut comprendre, et ça c'est relativement important à savoir, c'est que ça va induire une hausse de la part des salaires dans la valeur ajoutée. J'ai fait rapidement un calcul là-dessus, je dirais que la mesure 11, globalement, c'est à peu près 10%, bon je fais à la louche, à peu près 10% d'augmentation des salaires, et de l'autre, la réduction du temps de travail, c'est un autre 10%. Et on arrive à un total de 20,3% de hausse des salaires. Voilà.
S'agit-il d'un vœu pieux, de mesures utopiques, ou est-ce que c'est réalisable, tenable économiquement?
Ah ben, je ne pense pas, et je ne le prends pas du tout comme un vœu pieux. Je pense que c'est quelque chose qui doit être tenu, ça c'est clair. Bon, évidemment, il ne s'agit pas d'organisation politique, là, il s'agit d'organisation syndicale et de structures associatives. Mais j'espère bien que ceci va être pris dans les programmes politiques. La question qui est posée là-dedans, c'est que quand on rapporte cette hausse des salaires par rapport au profit existant des entreprises, je crois qu'il faut être extrêmement clair, nous n'aurons plus de profit des entreprises avec cette hausse des salaires. Donc, quelque part, la question qui est posée, c'est pour moi sortir du capitalisme. C'est-à-dire dire, à partir du moment où les salaires sont trop élevés par rapport à la valeur ajoutée produite dans les entreprises, ben la question qui est posée, c'est le départ des actionnaires et que les entreprises soient gérées par les travailleuses et travailleurs directement. Je pense que c'est ça qui est en question dans ce programme, si nous voulons appliquer ces mesures. Mais ces mesures n'ont absolument rien d'utopique ou quoi que ce soit, c'est une question de volonté politique. Mais il me semble important de dire, et l'un et l'autre, un, on doit tenir ces mesures et c'est important. Si demain le carburant doit remonter, etc., l'idée qu'il y ait un salaire minimum de 1100 euros, c'est quelque chose qui est très important, à mon avis, surtout quand on parle de relocalisation et autres. Et de l'autre côté, eh bien, je dirais, ça ne sera viable que si on sort du capitalisme, et sortir du capitalisme, c'est sortir des sociétés de capitaux et avancer vers une économie où ce sont les travailleuses et travailleurs qui gèrent leur entreprise en, coordination avec les usagers.
Et alors, est-ce que de telles mesures t'apparaissent, non pas uniquement comme suffisantes, mais en tout cas, une porte de sortie effective du capitalisme ?
C'est pour moi non pas une porte de sortie possible, mais la porte de sortie. Je crois qu'on s'est beaucoup interrogé pendant des années sur comment sortir du capitalisme. À une époque, on parlait de nationalisation des entreprises, d'étatisation des entreprises. Je crois que ça, c'est quelque chose qui est complètement oublié aujourd'hui, parce que tout simplement, qu'est-ce que ça fait ? On ne fait jamais que changer un propriétaire d'un propriétaire privé vers un propriétaire public, et in fine, les salariés, les travailleuses et travailleurs restent toujours en position de subordination. Là, on parle bien d'un changement de système, c'est-à-dire qu'on parle bien d'une hausse des salaires qui va prendre la totalité de la valeur ajoutée, donc il n'y a plus aucun intérêt à être propriétaire de l'entreprise parce qu'il ne reste plus rien. Et donc la logique de ceci, c'est qu'au final, les travailleuses et travailleurs gèrent directement l'entreprise. C'est une véritable appropriation sociale qui doit être mise en place.
Merci Benoît.
Merci Luc.
Retrouvez plus d'informations sur l'actualité et les alternatives économiques sur le site qu'anime Benoît Bouritz, economie.org.
Et on retrouvera régulièrement Benoît Bouritz pour cette chronique économique, démocratie économique, le titre est pour l'instant provisoire, régulièrement dans nos émissions sur Micro Rebelle. Reportage maintenant, retour sur la manifestation du 16 juin à Lille. Nous sommes deux avec Luc à nous immerger dans cette manif et à recueillir quelques témoignages, des témoignages souvent enragés.
Mardi 16 juin, première manifestation autorisée depuis le confinement. Des dizaines de milliers de personnes défilent dans de nombreuses villes de France. Ce sont des travailleuses et des travailleurs, des hôpitaux, publics et privés, des EHPAD, des soignantes et soignants, des paramédicaux. Et ils et elles sont accompagnés par des citoyennes et citoyens, des travailleuses et travailleurs, solidaires et mobilisés. Toutes et tous dénoncent le retour à la normale, L'apostrophe est anormale en un seul mot. Pendant que le gouvernement ressort la vieille ficelle politicienne de la grande concertation avec le Ségur de la santé, le personnel soignant ne s'y trompe pas et se mobilise. Les revendications sont claires. Il ne s'agit ni de primes, ni de médailles, mais d'augmentation de salaire, de création d'embauches et de réouverture de lits. Nous étions deux dans la belle manifestation lilloise, deux de micro-rebelles. Nous tendons notre micro à quelques manifestantes et manifestants.
Fayenne Lambda, je suis gestionnaire chez un bailleur social. Donc rien à voir a priori avec le personnel soignant, sauf que quand j'ai vu les images et quand j'ai vu la détresse de nos soignants en France avec l'épidémie du Covid, franchement j'ai eu honte, honte de notre gouvernement, honte qu'on puisse laisser nos soignants sans protection. Ils ont été obligés de travailler dans des conditions qui ne sont pas dignes d'un pays comme la France, et j'ai eu honte et j'ai eu la rage par rapport à notre gouvernement, par rapport à notre président, qui au final, depuis qu'il a été élu, ne fonctionne qu'avec le mépris. Et là, finalement, tout le personnel soignant a été méprisé, ils ont été bafoués, et au final, c'est tout le peuple qui a été méprisé. C'est ça que ça a révélé, en fait. Ça a révélé qu'il y avait deux mondes, il y a le leur et le nôtre. Le nôtre, ceux des petites gens, voilà, comme nous, qui travaillons pas, qui essayons de vivre avec un SMIC, avec un petit peu plus qu'un SMIC. Et eux nous donnent des leçons. Je pense qu'il ferait pas mal de se regarder dans le miroir quand ils ont été capables de nous mentir en nous disant qu'on n'avait pas besoin de masques, que c'était pas utile, qu'on était trop bêtes pour pouvoir les utiliser. C'était juste pour cacher le fait qu'ils n'avaient jamais anticipé cette épidémie. Alors, ce n'est pas les seuls responsables, mais c'est eux qui sont en place aujourd'hui. Donc, c'est eux qui doivent porter la responsabilité. Et aujourd'hui, si je suis là, c'est pour soutenir le personnel soignant, pour dire c'est tout, maintenant c'est terminé. Vos fermetures de lit, c'est terminé. Avoir 30% de personnel administratif dans les hôpitaux, c'est terminé. Et au-delà de ça, le monde d'après, moi, je le vois comme une lutte, parce que malheureusement, on ne pourra pas faire autrement que lutter. Voilà, aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, je suis là pour lutter. C'est la première étape. Et il y en aura d'autres, beaucoup d'autres, j'espère.
Karine Classe, je suis aide-soignante à l'hôpital de Douai et secrétaire générale du syndicat CGT du centre hospitalier de Douai.
Quelles sont les revendications principales que vous portez aujourd'hui ?
Revalorisation des salaires, augmentation du personnel dans les établissements. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Arrêt de la précarisation, la titularisation, voilà, tout ce qu'il faut, augmentation des lits, réouverture des lits, beaucoup d'autres choses.
Sans vouloir être trop négatif, tout ça c'était déjà réclamé bien avant. Est-ce qu'aujourd'hui, ça peut changer ?
Non, ça ne changera pas, puisque nous, dans notre hôpital, dans notre propre hôpital, notre directeur, pendant le Covid, la suspension du CREF, et dans notre hôpital, et ben notre directeur a travaillé sur le CREF, c'est-à-dire sur la suppression d'emplois paramédicales et médicales, et suppression des lits. Donc non, on a du mal à croire qu'ils vont, nous donner tout ce qu'ils ont annoncé.
Au-delà de ça, comment faire ?
Il faut que le combat continue, il faut continuer la mobilisation avec le personnel, avec les usagers et avec certains de nos, comment je vais dire ça, de nos députés, tels que le Parti communiste qui est très présent chez nous à Douai.
Qu'est-ce que vous pensez de la manifestation d'aujourd'hui, de la mobilisation ? Elle est satisfaisante ?
Moi, je suis très satisfaite de voir tout ce monde qui est dehors. J'espère que ça va continuer. À Douai, on a fait une opération escargot. On a été à plus de 50 voitures. Et franchement, ça a été une belle mobilisation également.
Oui, bonjour, je suis Nicolas. Je suis aide-soignant. Je suis aujourd'hui mobilisé pour dénoncer un manque de moyens au corps du Covid. On revendique également une dévalorisation des salaires, d'un manque de reconnaissance. Et aujourd'hui, il y en a marre, il n'y a rien qui change. Le Covid a démontré que l'hôpital public était indispensable. Et nos politiques ne font rien pour que ça change.
Alors, moi, de base, je suis éducatrice spécialisée de formation. J'ai été diplômée en 2017 et j'ai été contrainte d'arrêter mon travail parce que je touchais seulement 1300 euros par mois. J'ai travaillé 7 mois dans ces conditions-là, mais j'ai 3 enfants que je dois faire garder par la nourrice. et à qui je donnais quasiment 800, 900 euros de salaire par mois. Et j'ai un mari infirmier libéral. Et là, au vu de la crise qui s'est passée, je ne vous cache pas que j'ai eu très peur pour lui. Et comme disait Magali tout à l'heure, on a la rage. Franchement, on est en colère. Il ne suffit pas d'être personnel soignant, il ne suffit pas d'être éducatrice spécialisée, il ne suffit pas d'être concerné de près, on va dire ça comme ça, pour être indigné et révolté. Il y en a marre, il y en a ras-le-bol que ça soit toujours les mêmes. On attaque toujours les mêmes, les premiers de corvée, comme je les appelle. Il y en a ras-le-bol.
On travaille dans une MAS, maison d'accueil spécialisée avec des polyhandicapés et troubles du comportement.
Quelles sont aujourd'hui les revendications principales que vous portez ?
Les revendications, c'est une valorisation de notre travail surtout. Et la revalorisation des salaires, parce qu'on est, on se sent oublié en tant que secteur médico-social.
Comment vous, est-ce que vous pouvez témoigner de votre expérience professionnelle pendant le confinement ? Ça s'est passé comment ?
On a tous été au top. On s'est mis en danger par rapport à nos familles, par rapport à nos proches, par rapport aux résidents. Et on est fiers d'avoir accompli ce qu'on a fait.
Le sentiment que vous en gardez, c'est plutôt positif. C'est une fierté plutôt que la difficulté face à l'épreuve et aux moyens qu'on vous donne pour l'affronter.
Mais carrément, on est fiers de tout ce qu'on a accompli et ce serait à refaire, on referait la même chose.
Qu'est-ce que vous pensez là de ce qui se trame ? Au-delà des annonces, on promet des choses, on annonce un monde d'après. Finalement, il ne se passe pas grand-chose, donc...
Pour résumer, en fait, ça va être clair, on nous prend pour des cons, tout simplement, en étant poli, en restant poli. On est tous pros, on est tous solidaires, mais on n'est pas écoutés, on n'est pas entendus.
Vous pensez quoi de la mobilisation d'aujourd'hui ?
C'est dommage que tout le monde nous ait applaudi à 20h tous les jours pendant un certain temps et qu'aujourd'hui, on aurait aimé que tout le monde soit là avec nous. Que ce soit pro, perso... Je veux dire, toutes sortes de catégories sociales, je pense que tout le monde a le droit d'être là et nous soutenir parce que la santé, tout le monde en a besoin. Tout le monde a besoin d'être soutenu, d'être soigné surtout.
Je reviens sur l'idée que vous êtes super fier. Pourtant, sur le dos de vos blouses, il est écrit « malaise, amertume, souffrance ».
Mais carrément, parce que en fait... on a besoin d'être entendu et on nous prend pour, comme je disais tout à l'heure en parlant poliment, pour des cons. Parce qu'on a besoin d'être connu, pas pour être valorisé, parce qu'on fait notre métier par conviction, par vocation. Et je pense que c'est important que tout le monde soit au courant de tout ce qu'on fait, que ce soit dans le milieu hospitalier, que ce soit dans les EHPAD, que ce soit dans le médico-social comme nous dans lequel on travaille. On travaille avec des polyhandicapés, on ne peut pas les laisser tomber du jour au lendemain comme ça. Ils ont besoin de nous tout le temps, au quotidien. Et... je pense que c'est important que tout le monde soit conscient, que ce soit dans tout milieu socio-professionnel, que la santé, c'est un bien précieux et qu'il faut la préserver.
Vous voyez la journée d'aujourd'hui comme une manifestation un peu unique ou le début de quelque chose, le début d'une lutte
Je pense que c'est le début, c'est tout le début d'une lutte parce que quand ça va pas, on est là, enfin les gens sont là. Quand ça va bien, on nous oublie un petit peu, que ce soit, comme je disais tout à l'heure, pour toutes les catégories socio-professionnelles, mais c'est un quotidien, c'est un vécu quotidien. Il faut que tout le monde soit là tous les jours, tout le temps. Et je pense que c'est que le début.
Je suis citoyenne banale. Je suis syndiqué, mais je pense que par rapport à la santé, mais pas seulement, par rapport à tous les services publics, c'est lamentable, je ne sais pas où on va. Et là, on a des médecins, des infirmiers qui ont été utilisés, employés de façon éhontée par le gouvernement, alors que ce sont des gens qui sont très dévoués à leur métier, à soigner les gens enfin, dans des conditions qui ont été assez épouvantables. Notre gouvernement n'a même pas été capable de faire face dès le début et de comprendre que les masques, on les avait abandonnés depuis Hollande. Mais en nous mentant, en nous disant « bon non, il n'y a pas besoin de masques, il n'y a pas besoin de masques », alors que c'était lamentable, c'est une honte. Et là maintenant, plutôt que les applaudissements aux infirmiers et infirmières, aux médecins, etc. Je pense qu'il faut vraiment se battre avec eux pour qu'ils aient des conditions de travail normales. C'est juste normal, parce que ce n'est pas le cas pour l'instant. Et qu'on les soutienne de cette façon-là, de façon politique, sociale, humaine, enfin, tous ces éléments-là pour qu'ils aient des conditions de travail normales. Et il ne faut pas oublier non plus tous les autres services qui ont travaillé, les enseignants, qu'on méprise de façon incroyable, alors que ce n'était pas évident non plus pour eux de travailler à la maison, confinés avec leurs enfants, enfin bon, etc. Mais aussi tous les autres services, hein, que ce soit les éboueurs, que ce soit enfin, tous ces gens qui ont travaillé là, et qu'on traite de haut, mais il nous faut des services publics réels.
Et...
Ah ben les services publics et qu'ils ne soient pas financiers, marchands, etc., etc. Je pense que c'est vraiment ça. Il faut qu'on change de société et qu'on ait une société qui valorise ces services publics et qui les mette en avant, qui les paye normalement, qui leur donne des conditions de travail. Je redis toujours normal. On ne demande pas plus, mais des conditions de travail normales. Ce n'est pas normal que des infirmiers soient payés à des salaires dérisoires en France. Alors après, je ne sais pas d'éléments de comparaison, mais je sais qu'en France, les conditions de travail et les salaires sont très bas. Voilà, donc il nous faut la santé, l'éducation et tous les services publics qu'on peut avoir dans des conditions, dans de bonnes conditions. Ah ben, avec les impôts sur la fortune, et là-dessus, il y a de l'argent, mais de l'argent. On ne va pas nous dire que la France, il n'y a pas d'argent, qu'on n'a pas des quantités d'argent qui traînent le basculement qu'il peut y avoir entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres, c'est effarant depuis 30-40 ans, le basculement qu'il y a pu y avoir avec une échelle effrontée, je crois que c'est vraiment le mot à utiliser, entre les gens qui n'ont pas de moyens, qui sont en bas de la catégorie sociale, on l'appelle comme ça, en bas. Je trouve que c'est simplement au niveau financier. Et puis tous ces gens qui se font un argent fou et... Bon, là, les parachutes dorés, alors j'ai entendu que c'est pour... je crois que c'est un patron Bombardier qui est parti avec un parachute doré, je ne saurais même pas redire, parce qu'il y a tellement de zéros derrière que c'est effarant, mais qui peut payer des quantités de salaire de gens qui ont le SMIC ou un peu plus, mais... Voilà, alors le chômage qu'on va avoir là maintenant, c'est une honte. Moi, je trouve que c'est une honte. Et il nous faut des services publics et il nous faut un État qui ne soit pas un État vendu au capitalisme et vendu simplement à l'argent et à tous ces gens qui se récupèrent des sommes incroyables. Donc, commencer par revenir de façon normale aux impôts sur la fortune. Et puis, les impôts, il les faut, les impôts. Parce que les impôts, c'est quand même ce qui permet aussi de financer l'État, le pays, les services publics, mais aussi qui nivellent plus ou moins les différences de salaire. Donc quand on nous dit on réduit les impôts, ah ouais, et ça, à qui ça sert? À qui ça profite? Donc voilà, c'est à peu près ma logique globale.
Alors justement, tu parles des codes capitalisme, comment est-ce qu'il faut faire pour les faire plier? Comment est-ce qu'on va y arriver à les faire plier?
Ça, je ne sais pas. Parce que, effectivement, même à l'intérieur du capitalisme, j'ai lu une étude récemment, même dans les années 60-70, on était déjà un pays bien capitaliste, hein, donc là-dessus. Mais la logique du capitalisme néolibéral, là, maintenant, a pris des proportions différentes. Alors, comment on va y arriver? J'en sais rien. Déjà, en étant très, très nombreux à réagir, parce qu'on est quand même une majorité énorme de la population à perdre dans cette logique. Alors maintenant, comment? Je ne sais pas. Je pense que les premières choses, c'est vraiment d'être nombreux, politiser, comprendre, apprendre tout ce qui est en train de se passer et de comprendre la logique qui est celle de l'évolution du capital vers un néolibéralisme effronté.
Dernière question, tu évoques le fait d'être politisé. On l'est pas, on l'est pas assez, on l'est pas.
Je pense que la population l'est de moins en moins et je pense aussi que les médias ont un sale rôle. Les médias du gouvernement, enfin, alors, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même sac, hein. Je parle bien d'un système, hein, parce que je suis toujours très très prudente sur accuser un système et accuser des personnes. C'est pas la même chose du tout, du tout. Mais je pense que là-dessus, c'est effarant. Je vais prendre un exemple, mais dans les mots qu'on utilise, quand on nous dit distanciation sociale, ah ouais, on se fout de qui, là ? Distanciation physique, oui, mais distanciation sociale. Et c'est ça qu'on est en train de faire. Donc il y a plein de choses. Alors, je suis dans une association, on travaille aussi sur les mots utilisés, mais bon, par exemple, c'est une petite chose, mais pourquoi on n'utilise plus le mot progrès ? Les médias n'utilisent plus depuis 5 à 10 ans du tout le mot progrès et le remplacent par innovation. Ah ouais ? Et c'est quoi derrière ? Surtout ne rien changer, mais continuer à faire du profit, sans rien changer à la logique globale. Donc toutes ces choses-là, je pense qu'il faut vraiment les apprendre globalement, collectivement. Et moi, j'ai apprécié que les Gilets jaunes aient fait ce gros travail. C'est-à-dire qu'ils ont manifesté, mais pas seulement. Ils ne sont pas contentés de manifester, ils ont travaillé ensemble. Après, bon, moi, je ne suis pas non plus favorable à une absence de partis politiques et de syndicats, bien sûr, parce qu'il faut s'organiser. C'est que comme ça qu'on peut apprendre. Mais il y a un gros boulot à faire pour revenir sur des bases solides. Et ben voilà, c'est à peu près.
Voilà, moi je suis retraitée d'éducation nationale et ben je suis venue ici parce que j'ai applaudi pendant 2 mois et voilà, je trouve normal qu'on ne les oublie pas et qu'on les soutienne, qu'on soutienne tous les personnels soignants.
Les priorités c'est quoi pour toi ?
Donc, du matériel, revoir leur salaire et leur formation et du personnel en plus, enfin il faut tout revoir.
Alors comment est-ce qu'on peut y arriver ?
Ça, quand même bonne question, je ne sais pas, mais il faut tout remettre à plat. Hein. Il faut tout remettre à plat. Parce que c'est quelque chose qui remonte à des années, hein, des décennies. Hein. Mon mari était directeur adjoint d'un centre hospitalier public. Il est en retraite depuis 4 ans, donc il a fait toute sa carrière dans les hôpitaux. Moi, je l'ai toujours entendu dire qu'il y avait un malaise terrible dans les hôpitaux, hein, qu'on allait à la catastrophe. Je crois qu'on y est. On y est et voilà. Là, il est temps qu'on remette tout à plat.
Alors, comment est-ce qu'on peut les obliger ?
Je ne sais pas. Moi, je crains qu'un mouvement comme ça, ça n'aboutisse pas. Bon, il faut déjà voir. Ils ont fait des promesses. Est-ce qu'ils vont les tenir ? Déjà essayer et espérer qu'ils tiennent le minimum de ce qu'ils ont promis. Bon, après, je pense qu'il faudra refaire d'autres mouvements encore. Il ne faut pas les lâcher.
Moi, je suis brancardier au bloc opératoire Saint-Vincent. Je suis là aujourd'hui, c'est pour manifester, dire mon mécontentement par rapport au bas salaire et tout. Il y a plein de choses qui ne vont pas, ça fait des années. On ne nous écoute pas, donc on est là pour ça.
Bas salaire, concrètement, ça veut dire quoi ? C'est quoi la rémunération de...
1002, franchement, avec 1002, tu fais rien du tout.
Pour quel travail, quel volume horaire, quel genre de conditions ?
35 heures, des fois même un peu plus, tu vois, des fois 39, ça dépend.
Donc toi, c'est principalement ça, les revendications que tu portes aujourd'hui ?
Ouais, c'est par rapport au salaire, quoi. Puis après, les conditions de travail aussi, des fois, c'est pas trop ça, quoi. Il manque du matériel, il manque les masques, les tenues, tout, quoi. À chaque fois, on est obligé de se débrouiller avec ce qu'on a.
Ça s'est passé comment, toi, pendant le confinement ? Est-ce que tu peux... Enfin, pendant la crise sanitaire, plutôt, est-ce que tu peux témoigner des conditions de travail pendant ce moment difficile ?
Bah, ça a été très, très dur, et c'est là qu'on a vu... qu'il nous manquait pas mal de choses. Et déjà, même avant le Covid, on avait demandé du matériel. Il n'y a rien eu. Et là, plus avec le Covid, c'est encore plus la galère, quoi. Voilà.
Est-ce que tu crois au changement, là, aujourd'hui ? Est-ce que tu penses que ça a pu servir de leçon ?
Vu comment c'est parti, non, je pense pas. Il faudra encore doubler d'efforts, de manifestations, de colère, quoi, pour qu'ils comprennent. Pour l'instant, non, je pense que ça va aboutir peut-être à un petit minima, mais pas ce qu'on veut exactement.
Ça veut dire que tu estimes la mobilisation d'aujourd'hui insuffisante ?
Oui, tout à fait, ouais, c'est ça. Ouais. Donc on va continuer, s'il faut remettre ça dans un mois ou quoi, on sera là.
Thank you. Bon, bah, moi, en fait, je m'appelle Laetitia. Et donc, si je suis ici, bah, c'est pour le soutien aux soignants. Alors, pas que lié à la crise du Covid, hein, mais aussi parce que, bah, on sait que ça fait des années que l'hôpital public, il est étranglé, que les soignants ont manque de reconnaissance. La reconnaissance, ça passe aussi par une bonne rémunération, une juste rémunération. Et donc, bah, voilà, je pense que là, c'est l'occasion aussi de dire qu'on n'est pas dupes et qu'on les soutient aussi, quoi.
Qu'est-ce qu'il faudrait changer de manière prioritaire ?
De manière prioritaire, bah, franchement, je suis un peu trop loin du terrain concret pour savoir, mais je pense que le mieux, c'est de poser la question aux personnes intéressées qui, elles, pourront dire bah, voilà, de quoi elles ont besoin. Moi, j'ai entendu parler de manque de lits, enfin, voilà, de manque de personnel, que, bon, voilà, que c'est, les conditions sont compliquées et qu'ils travaillent des fois un peu en mode flux tendu. Donc voilà.
Bien voilà, donc c'était un reportage, plutôt un extrait hein, d'un reportage réalisé durant la manifestation lilloise hein, ce mardi 16 juin. Je vous invite à écouter la totalité de ce reportage, hein. On n'a pas le temps dans le cadre de cette émission de la diffuser entièrement. Donc je vous invite à vous rapprocher du site micro-rebelle.fr. Ce reportage est d'ores et déjà en ligne, vous pouvez le podcaster ou le télécharger. Cette émission, ce micro-rebelle hebdo, tire à sa fin. On va se retrouver la semaine prochaine, hein, même heure, hein, 18h. N'hésitez pas à nous contacter, 03 74 71 24 87, pour nous donner des suggestions, nous donner des informations, des idées de reportage ou nous faire part d'actualités que vous souhaiteriez trouver sur notre web radio, sur nos émissions micro-rebelle.fr. Le courriel électronique contact@micro-rebelle.fr. Et on va se quitter comme chaque semaine avec le petit tip du jour, le petit conseil, le petit tuyau pour prendre soin de soi. Un petit tip que nous propose Aurélie. Je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Bye bye.
Aujourd'hui, je vous propose une astuce contre les moustiques. Donc pour cela, il vous faudra de l'huile essentielle de citronnelle de Java et un peu d'huile. Donc ça se trouve en pharmacie ou en parapharmacie pour quelques euros. Appliquez sur la peau un peu d'huile avec une ou deux gouttes de cette huile essentielle, ou diffusez cette huile essentielle dans votre diffuseur. C'est un répulsif efficace contre les moustiques et en plus, elle assainit l'air ambiant.